2 Pierre, chapitre 1, à partir du verset 3. Sa divine puissance nous a donné tout ce qui contribue à la vie et à la piété, en nous faisant connaître celui qui nous a appelés par sa propre gloire et par sa vertu. Par elle, les promesses les plus précieuses et les plus grandes nous ont été données, afin que par elles, vous deveniez participants de la nature divine, en fuyant la corruption qui existe dans le monde par la convoitise. À cause de cela même, faites tous vos efforts pour joindre à votre foi la vertu, à la vertu la connaissance, à la connaissance la maîtrise de soi, à la maîtrise de soi la persévérance, à la persévérance la piété, à la piété la fraternité, à la fraternité l'amour, l'amour agapé. En effet, si ces choses existent en vous et s'y multiplient, elles ne vous laisseront pas sans activité ni sans fruit pour la connaissance de notre Seigneur Jésus-Christ. Mais celui qui ne les possède pas est un aveugle. Il a les yeux fermés. Il a mis en oubli la purification de ses anciens péchés. C'est pourquoi, frères, efforcez-vous d'autant plus d'affermir votre vocation et votre élection. Et en le faisant, vous ne broncherez jamais. Amen. C'est le texte que nous avons maintenant lu pour ces derniers cultes. Et je voudrais aujourd'hui, encore une fois, parler de ces vertus chrétiennes dont nous sommes en train de parler. Ces vertus chrétiennes dont nous avons parlé sont déjà la fidélité et l'intégrité. C'est les deux messages des deux derniers cultes. Et ce matin, nous allons en rajouter une importante pour chacun. Ce sont des vertus qui sont demandées, qui sont recherchées, qui sont précieuses. Elles sont recherchées dans le monde, là où nous sommes, par la société, par les endroits où nous travaillons, où nous sommes. Fidélité, intégrité et la vertu d'aujourd'hui sont demandées, recherchées. Mais Dieu aussi les désire. Ce sont des vertus qui ont du niveau. Et ce qui se passe souvent, c'est qu'on dit, mais on ne peut pas accéder à ce niveau-là, à ce niveau biblique-là. Et puis on dit, fidèle, oui, mais. Intègre, oui, mais quand même, il ne faut pas exagérer. On ne peut pas tout le temps être ce que Dieu attend de nous et ce que la Bible dit. C'est impossible. Frères et sœurs, je vous rappelle, dans ce texte qui est un des textes phares pour nous faire comprendre que nous avons d'abord reçu. Tu ne peux pas être fidèle, intègre, si tu n'as pas reçu des choses auparavant. Nous avons reçu les plus grandes et les plus précieuses promesses. Nous avons reçu sa divine puissance. Nous sommes même devenus participants en Jésus-Christ à la nature divine. Nous avons reçu ce qu'il faut pour vivre comme Dieu le veut. Amen. Mais ces vertus, aujourd'hui, bien qu'elles soient demandées, il faut le dire aussi, elles dérangent. Elles dérangent. Simple fait d'être fidèle à son conjoint jusqu'à la mort, c'est une valeur qui n'a plus vraiment cours aujourd'hui. Dans le monde et même dans les lois. Ça paraît dépassé, ça met mal à l'aise certains d'entendre ça. Et lorsque des jeunes couples se promettent fidélité jusqu'à la mort, il y en a qui secouent la tête. C'est juste plus possible. Valeur. Ah oui, si on est fidèle, on est fidèle à soi-même. Ah oui, je suis fidèle à moi-même. Et là, on peut mettre tout ce qu'on veut. Si vous êtes intègre, mes amis, vous allez aussi déranger. Il y a des personnes qui ont perdu leur emploi, leur travail, à cause de leur intégrité. Il y en a qui n'ont pas pu subsister à cause de leur intégrité. Parce que c'était simplement une réceptionniste, par exemple, qui était obligée de dire « le patron n'est pas là » alors qu'il était à côté. Qui, à un moment donné, a dit « mais mon patron me demande de vous dire » alors que... Et elle s'est fait virer. Être intègre, éviter toute tricherie et tout mensonge, vous dérangez. Vous dérangez le monde des ténèbres. Le diable travaille dans l'obscurité, là où il y a l'infidélité et le manque d'intégrité et aussi le manque de la valeur que nous avons, dont nous avons parlé aujourd'hui, qui se trouve au verset 6. Faites tous vos efforts parce que ces choses nous sont données par Dieu dans la vie nouvelle en Jésus-Christ. Mais cela veut dire aussi que j'ai quelque chose à faire. J'ai quelque chose à mettre en mouvement. Je dois ajouter, je dois faire des efforts pour ajouter à la fois la vertu la connaissance, et la connaissance la maîtrise de soi. C'est de ça qu'on va parler. La maîtrise de soi, autrement dit aussi la tempérance, qui est un mot moins utilisé, la maîtrise de soi. Qu'est-ce que ça veut dire la tempérance, la maîtrise de soi ou la discipline? Ça sonne comment à vos oreilles? En plein été en plus. C'est rester maître de ses désirs, c'est rester maître de soi, être capable de contrôler ses appétits de tout genre, ses passions, être capable de régner sur soi-même. Ça, c'est la discipline, la tempérance. C'est la capacité qu'on a de mettre des limites, de s'imposer quelques limites qui sont, écoutez bien, un signe de maturité. C'est un signe de maturité. Je suis capable de poser des limites à certaines choses parce que je suis capable de me discipliner. Et pour cela, le Seigneur nous dit, c'est un fruit de l'Esprit. La vie de Jésus au travers de toi, la vie de Jésus en toi, développe automatiquement l'amour, la paix, la joie, la bonté, la bienveillance, la tempérance, la maîtrise de soi. Ça fait partie, justement, des vertus, de ces vertus précieuses et importantes. Le fruit est quelque chose de naturel, dans la mesure où je reste bien connecté, moi, la branche, que je sois connecté au tronc, que j'ai la sève du tronc qui passe par moi, que j'ai la vie de Jésus qui ne soit pas bloquée quelque part, mais qui passe dans ma vie, alors le fruit sera aussi la tempérance, la maîtrise de soi. Ces vertus-là, fidélité, l'intégrité, la discipline, sont des choses qui construisent notre caractère. Ça bâtit notre caractère et ça prend du temps, comme tout fruit prend du temps. Nous avons dit également la dernière fois que la motivation pour ces vertus, c'est aussi la crainte de Dieu. Pourquoi? Parce que la crainte de Dieu, c'est la capacité de ne pas offenser Dieu. Je ne veux pas offenser Dieu, je ne veux pas blesser le Seigneur, je veux le craindre, je veux le respecter. J'ai un grand respect devant Dieu et devant sa parole, devant ses lois, devant ses principes. J'ai un immense respect devant sa personne, j'ai la crainte de Dieu et à cause de ça, je ne vis pas n'importe comment. Et je ne fais pas n'importe quoi et je ne dis pas n'importe quoi parce que j'ai la crainte de Dieu. La crainte de Dieu, c'est le moteur des vertus chrétiennes. La crainte de Dieu, c'est le moteur. Parfois, je suis étonné de voir comment certains chrétiens se comportent et parlent. Et je me dis, mais où est la crainte de Dieu, là? Mes amis, nous devons revenir à la crainte de Dieu. Et elle doit être présente à chaque instant dans nos cœurs. Elle nous mettra en garde quand nous sommes en train de frôler des limites. Et elle nous donnera l'approbation du Saint-Esprit lorsque nous faisons quelque chose de juste. Dans Actes 24, verset 25, on trouve une chose intéressante, c'est que la discipline n'a jamais été populaire. Elle n'a jamais été populaire autrefois, elle ne l'est pas maintenant. Il nous l'est dit dans ce texte, comme Paul discourait sur la justice, sur la tempérance ou la maîtrise de soi, la discipline, et sur le jugement à venir, Félix effrayé dit, pour le moment, retire-toi, quand j'en trouverai l'occasion, je te rappellerai. L'apôtre Paul est prisonnier. Il est en prison à Césarée et il va rester pendant 2 ans dans cette prison. Et en attendant, il y a un premier gouverneur, puis un deuxième gouverneur qui va arriver. D'abord, c'est Félix. Puis après, il y aura Festus. Et Félix est un gouverneur qui a beaucoup d'autorité, mais c'est un homme terrible, connu pour sa grande cruauté. Et l'apôtre Paul, en étant un simple petit prisonnier à la merci de ce grand Félix, Il n'a pas peur de parler de ces choses-là. Il n'a pas peur de lui parler de la justice, de la discipline et du jugement à venir. Et Félix attrape peur parce que sa vie n'est pas du tout en règle. Si vous regardez un peu l'histoire, en fait, il a marié Drusille, c'est dans les versets qui précèdent et qui suivent qui nous disent cela, qui est en fait la fille du terrible roi Hérode Agrippa, petit-fils de Hérode le Grand, qui lui, dans les textes bibliques, nous montre qu'il a fait décapiter Jacques. Et la Bible parle aussi de quelle mort il est. Il est mort d'un coup, rongé par les vers, au chapitre 12 des Actes. Et ce Félix avait pris la femme de ce Hérode Agrippa, etc. Donc il avait une vie qui était vraiment complètement désordonnée. Et l'apôtre Paul, simple prisonnier, il n'a aucun droit, il n'est rien devant ce grand gouverneur, qui pourtant est curieux et veut l'entendre, ne va pas lui parler seulement de l'amour de Dieu, de la grâce de Dieu, de la bonté de Dieu, mais va lui parler de la justice, de la discipline et du jugement à venir. Ça veut dire, Félix, si tu ne changes pas ta vie, il y a le jugement qui va t'attendre. Quel courage! Ce n'est pas populaire de parler de cela. Et pourtant, l'apôtre Paul l'a fait. Il a utilisé l'occasion. Et puis, la Bible dit qu'à un moment donné, Félix est parti et un autre l'a remplacé. Il n'a plus entendu Paul. Il y avait un temps favorable pour dire les choses. Il y a un temps favorable pour dire les choses, frères et sœurs. Il y a un temps pour parler de l'amour de Dieu. Il y a un temps pour parler d'autres choses, y compris du jugement à venir et de la discipline et d'autres valeurs. L'apôtre Paul nous donne un exemple. Pourtant, la discipline, même si elle n'est pas populaire, elle est indispensable au fonctionnement harmonieux. Qui voudrait circuler dans une ville où il n'y a pas de code de la route? Où il n'y a aucune discipline? Tout le monde fait tout ce qu'il veut, roule à droite, à gauche, n'importe où, n'importe comment. Moi, je ne voudrais pas vivre dans une ville où il y a un désordre, un chaos total parce qu'il n'y a pas de discipline. Nous sommes tous très contents. Parce qu'à cause d'une vie sociale disciplinée, en tout cas un tant soit peu, eh bien ça marche. Vous qui voyagez peut-être dans d'autres pays et qui devez faire des démarches administratives où il y a un niveau de discipline inférieur à ce que nous sommes habitués à vivre ici, bien, vous allez vite vous en rendre compte combien c'est compliqué, combien nos nerfs sont éprouvés lorsque la discipline manque. Et parfois, nous disons, mais nous sommes agacés par l'indiscipline des autres. Même, c'est déjà arrivé, qu'à la sortie, dans le hall d'entrée, les enfants vous courent devant, renversent votre café, ne vous disent pas bonjour, vous dites, mais c'est quoi l'éducation ici? L'indiscipline des uns vous énerve, vous agace. Cela montre que la discipline est indispensable au fonctionnement harmonieux d'une famille, d'une église et d'une société. Et même le bien-être d'une nation en dépend. Nous voyons en étudiant les réveils en Israël sous Ézéchias, sous Josias et sous Josaphat, nous voyons dans ces réveils, lorsque ce souffle arrive et que le pays se remet debout dans ses valeurs spirituelles et sociales, eh bien la discipline arrive, la discipline est remontée. Il y a de l'ordre qui est mis en place. C'est le fruit du réveil. Une discipline, c'est le fruit d'un réveil du cœur. Le réveil du cœur. Nous avons donc dit que la discipline est indispensable au fonctionnement harmonieux, mais elle est aussi indispensable pour atteindre un but. Notre jeune frère a témoigné tout à l'heure qu'il est dans les études universitaires de droit. Ben, il faut t'accrocher, mon cher. Je crois que c'est très dur. Quelle est la valeur de base pour un étudiant ? C'est l'obligation d'être discipliné dans ses études. Si vous voulez arriver à quelque chose, vous devez être discipliné. Si vous êtes entre les mains d'un chirurgien de très haut niveau, sachez que ce chirurgien est extrêmement discipliné dans sa vie personnelle pour pouvoir atteindre ce niveau et pour pouvoir vous aider, sauver des vies, parce que la discipline est une valeur de base pour quelque chose de très élevé que nous devons atteindre. Aucun musicien ne peut accéder à un certain niveau s'il n'y a pas une discipline, n'est-ce pas vrai? Nous n'arrivons jamais à avoir le bachelor, le master et le doctorat si nous ne sommes pas disciplinés. Nous avons besoin de la discipline. Et puis le ministère dans le Seigneur, le ministère spirituel, quel qu'il soit, n'est accessible que s'il y a de la discipline. Il est dit dans Tite, chapitre 1, verset 8, que l'ancien doit être hospitalier, ami des gens de bien, il doit être modéré, il doit être juste, il doit être saint, et il doit être tempérant, ça veut dire il doit être maître de lui-même. Un ministère spirituel a pour condition la discipline. Être capable de se maîtriser, être capable de régner sur soi-même, sur ses passions, ses désirs et ses appétits. C'est demandé de l'apôtre Paul pour Tite, qui est un ancien dans l'Église. La discipline est indispensable à toute réussite pour atteindre le but. Nous lisons dans 2 Timothée chapitre 2, versets 3 à 6. 2 Timothée 2, versets 3 à 6. Souffre avec moi comme un bon soldat de Jésus-Christ. Il n'est pas de soldat qui s'embarrasse des affaires de la vie. S'il veut plaire à celui qui l'a enrôlé, l'athlète n'est pas couronné s'il n'a combattu suivant les règles, et il faut que le laboureur travaille avant de recueillir les fruits. Dans 1 Corinthiens 9, 24, l'apôtre Paul va dire la même chose, il va reprendre l'image de l'athlète, il va dire que tous ceux qui combattent s'imposent toutes sortes d'abstinence, et le mot abstinence c'est le mot contrôle de soi, discipline. Ils le font pour obtenir une couronne corruptible, mais nous le faisons pour une couronne incorruptible. Et dans ces trois métiers dont nous avons parlé dans ce texte, dont nous entendons parler dans ce texte, il y a le soldat, il y a l'athlète, il y a le laboureur. Ces trois professions qui exigent une discipline. Le soldat, c'est une discipline imposée. L'athlète, c'est une discipline par choix pour accéder à la couronne, à la victoire, c'est pour se prouver qu'il est capable, c'est par esprit sportif, etc., pour la couronne, pour la renommée, que sais-je. Mais le laboureur, lui, c'est aussi une discipline, mais lui doit l'ajuster à la nature. Il travaille avec la nature. De même, le chrétien a une discipline que Dieu lui impose, que son cœur et sa conscience lui imposent. Il court comme un athlète après le but, mais en même temps, il travaille ensemble avec le Saint-Esprit. C'est le fruit du Saint-Esprit. Le Saint-Esprit le produit, mais lui aussi fait en sorte que. Voyez-vous, la vie chrétienne, c'est une communion entre Dieu et nous, où Dieu fait quelque chose et je dois faire ma part. Et Dieu ne fait pas ce que moi je dois faire. Et je n'ai pas besoin de faire ce que Dieu fera lui-même. Je n'ai pas besoin de faire le travail de Dieu, mais Dieu me dit, fais ton travail et je serai avec toi. C'est une intime liaison entre le Saint-Esprit et nous. Personne ne peut dire, c'est trop dur, j'y arrive pas. Le Saint-Esprit va t'aider. Mais il faut faire quelque chose. Faites tous vos efforts, nous a dit 2 Pierre. Je ne veux pas simplement dire comme ça, j'attends que ça vienne, ça me tombe dessus. Il y a quelque chose à faire, nous sommes acteurs de notre vie. Nous sommes responsables de notre vie, frères et sœurs. Disciple veut dire discipline, c'est les deux mots qui sont en fait les mêmes, c'est la même racine. Et Dieu veut justement au travers de la discipline nous former dans la maturité. Il n'y a pas de maturité sans discipline, amen, il n'y a pas de maturité. Un enfant manque de discipline mais il n'est pas mûr encore. Mais un adulte qui se conduit comme un enfant, ça fait des dégâts. Un adulte qui est un éternel adolescent, ça ne va pas. Il faut que la discipline fasse son travail pour que la maturité soit forgée en nous et que l'on puisse compter sur nous et que nous soyons des ministères dans l'Église, des serviteurs et des servantes qui sont crédibles à cause du fait qu'ils sont capables d'être tempérants. Ils sont capables de se maintenir, de régner sur soi-même. Oh, on voudrait bien régner sur les autres. Mais Dieu nous dit, avant de régner sur les autres, et avant que je ne te confie des règnes, que je te confie des responsabilités, règne d'abord sur toi-même. Règne sur ton caractère, règne sur tes pulsions, règne sur tes instincts, règne sur tes pensées, sur tes paroles, règne sur toi-même. Ça, c'est le premier règne. Règne sur toi-même. Le manque de discipline nous guette tous. Regardez 2 Timothée encore, chapitre 3, juste la page d'à côté, du verset que nous avons lu. 2 Timothée 3, 3, facile à retenir, 3, 3. Il est dit, « Sache que dans les derniers temps, les temps surgiront des temps difficiles. Les hommes seront insensibles, implacables, sans frein, Et au verset 4, il est dit « emporté », ça veut dire « impulsif ». Et sans frein, c'est justement le mot contraire de la discipline, c'est l'antidiscipline. Ils sont tellement libres que la discipline, ça ne fait plus partie de leur valeur. C'est la caractéristique des temps de la fin. Une absence de discipline. Frères et sœurs, nous avons un autre objectif. Dans ces temps de la fin dans lesquels nous sommes appelés à être différents. Est-ce que quelqu'un veut être différent? C'est difficile, mais c'est là que nous remporterons le but et la victoire. Ça fait partie des valeurs que Dieu veut voir en nous, il veut briller au travers de nous, il veut que sa gloire se manifeste au travers de nous, aussi au travers de ces valeurs-là. Dans le Proverbe 29, verset 11, il est dit que l'insensé met en dehors toute sa passion, c'est-à-dire que tout ce qui bouillonne en lui, il explose à tout moment. Il dit tout et n'importe quoi, mais le sage la contient. Donc notre passion, notre désir, nos appétits doivent être capables d'être contrôlés par notre volonté. Notre volonté qui contrôle nos pulsions de tout genre. L'insensé, dit la Bible, il met au grand jour tout ça. Il sème tout ça au grand vent et il assène les autres de ses propres propos qui sont des propos insensés. C'est vrai, parfois on dit, oui, mais il faut l'excuser, lui, c'est un sanguin. Il a du sang chaud, puis quand on voit, quand on connaît le pays d'où il vient, il faut l'excuser, il faut le comprendre. Mes amis, pourquoi excuser le manque de discipline? Pourquoi? Jacques et Jean étaient des sanguins, non? Ils voulaient faire tomber le feu sur les villages, ils avaient hâte que le jugement arrive, que les choses bougent, que les choses se fassent. Ils étaient des sanguins. Mais l'apôtre Jean, fils du tonnerre, est devenu l'apôtre de l'amour, qui a écrit 1, 2, 3 Jean et son évangile, un homme transformé par la puissance de Dieu, alors qu'il était le fils du tonnerre. Personne n'est préprogrammé pour avoir simplement un fonctionnement selon l'instinct. Nous sommes responsables de notre vie et le Saint-Esprit peut aider quiconque, même le plus compliqué d'entre nous, pour vivre une vie qui correspond et qui honore Dieu. Quiconque, même le plus difficile, est capable d'être entrepris par le Saint-Esprit. Oui, l'indiscipline, voyez-vous, l'indiscipline, le diable n'attend que ça pour nous faire tomber. Il n'attend que ça. Un chrétien qui a un témoignage, qui a une position, un chrétien qui a une influence, le diable cherchera le moment de la petite indiscipline pour le faire tomber et pour ruiner son témoignage. Et il y a beaucoup d'exemples bibliques. Il a fallu peu de choses pour que David tombe avec Bathsheba. Il a fallu aussi peu de choses, mais des choses qui se sont succédées les unes aux autres pour que Samson, l'homme fort, soit finalement piégé par son manque de discipline complet, par ses passions qui le faisaient bouger de femme en femme et d'endroit où il ne devait pas être, à d'autres endroits où il ne devait pas habiter. Et il s'est fait avoir malgré sa force. Le diable n'attend que ça. Mes amis, ça peut arriver très vite. Faites toujours attention après les grands moments de bénédiction. Après les grands moments de jeûne et prière, vous avez discipliné votre estomac, votre vie. Juste après, faites attention. Les grands moments de bénédiction peuvent être suivis par des moments de relâchement où le diable peut nous piéger, notre chair nous piège. Faisons attention. Les moments d'indiscipline peuvent nous guetter tous. Même le plus fort d'entre nous. Personne n'est à l'abri. L'apôtre Paul va dire, je maintiens mon corps en bride de peur d'avoir prêché aux autres, je sois moi-même disqualifié. Il y a une attention permanente à faire. Vous voyez, ce n'est pas tellement un message populaire pour le milieu de l'été, hein ? Et quand même, c'est la Bible. Comment réagir ? J'ai pensé à deux choses. Je pense que d'abord, pour réagir contre le manque de discipline, il faut être fatigué de son indiscipline. Il faut en avoir marre d'être indiscipliné sur un ou l'autre point de notre vie. Il faut que vous soyez fatigué. Tant que vous acceptez cette indiscipline récurrente, vous ne pouvez pas changer. Tant que vous aimez une partie de cette indiscipline, vous ne pouvez pas changer. C'est comme une addiction. Tant que vous aimez la chose qui fait de vous un prisonnier, tant que vous l'aimez, vous ne pouvez pas être libéré. Ça ne marche pas, on peut prier, ça ne marche pas. Il faut en avoir marre, il faut être fatigué, il faut mettre une distance, il faut arrêter nettement, clairement, il faut être fatigué de cette indiscipline. Alors l'indiscipline n'est pas toujours un péché. Par exemple, si vous aimez regarder des émissions sportives, je prends un exemple comme ça, et que vous passez du temps à la télévision pour suivre les matchs, etc., ce n'est pas un péché. Mais si vous passez tous les jours 10 heures devant votre télévision à regarder que du sport, il y a quand même un problème, non? La Bible ne dit pas directement que c'est un péché, mais c'est une perte de temps évidente. Et la perte de temps, nous devons rendre compte aussi de cela. La Bible dit, 1 Corinthiens 6, 12, « Tout m'est permis, mais tout n'est pas utile. Tout m'est permis, mais je ne me laisserai pas asservir par quoi que ce soit. » Par quoi est-ce que tu te laisses asservir? Qu'est-ce qui fait qu'il y a un petit lien quand même qui t'autorise à l'indiscipline, à ne plus maîtriser ta vie? Et nous allons à la fin de ce message prier pour cela justement, pour que le Seigneur puisse vraiment, et dans la vérité, la lumière et l'authenticité, nous puissions dire, Seigneur, tu vois, il y a là un problème. Je ne suis pas indiscipliné partout, mais sur ce point-là, j'ai un souci, j'ai un problème. Seigneur, je te demande ton aide, je te demande dans l'humilité, Seigneur, je te demande pardon d'avoir perdu tellement de temps avec ce truc. Perdu tellement de temps, tellement de fois, je suis culpabilisé, je tombe dedans, dans cette indiscipline. Seigneur, j'ai besoin que tu me corriges et que la vie de Jésus me donne de me rester quelqu'un qui a de la tempérance. La deuxième façon de réagir, c'est non seulement être fatigué de nos indisciplines, mais c'est aussi de voir les conséquences de nos inconséquences, c'est-à-dire de voir les conséquences du manque de discipline. Les conséquences peuvent être catastrophiques. Nous avons vu, en énonçant courtement David et Bathsheba, c'est une des grandes histoires, et ce n'est pas la seule, mais c'en est une qui a eu tellement de conséquences, qui a accompagné cette ombre au tableau tout au long de sa vie. Combien de serviteurs de Dieu, à cause d'une indiscipline, ont porté l'opprobre tout au long de leur ministère? Combien n'avaient plus que leurs yeux pour pleurer? Parce qu'une fois que c'est trop tard pour certaines choses. Le témoignage est ruiné, c'est difficile après. Mes amis, soyons clairs ce matin, n'excusons pas nos indisciplines. Ne disons pas « je suis comme ça, c'est ma nature ». Le Seigneur a une réponse pour nous. Le Seigneur a une réponse pour nous. Voyez-vous, lorsque tout au début de l'histoire du monde, dans Cain et Abel, au chapitre 4 de la Genèse, nous voyons que Cain a cette colère contre son frère. Cette colère va se tourner en amertume et devenir de la haine. Et ce qui est intéressant, c'est qu'aujourd'hui, lorsque nous prions pour des gens qui ont de la haine et des envies de tuer les autres, on dit, ah ben ça c'est un esprit de mort qu'il faut chasser. Souvent, c'est ce qu'on pense. Mais quand on regarde la Bible, ce n'est pas ça que Dieu va faire. Dieu ne va pas chasser un esprit ou dire à quelqu'un de chasser un esprit hors de Caïn. Il va dire quoi? Caïn, pourquoi es-tu irrité? Il remet l'homme devant sa responsabilité. C'est pas, souvent c'est ça. C'est qu'on a un problème, ah c'est à cause d'un esprit. Donc ce n'est pas mon problème, c'est le problème de l'esprit. C'est le mauvais esprit, c'est le démon qui fait. C'est pas moi qui ai tué, mais c'est le démon qui m'a fait tuer. C'est moi qui ai volé, c'est le démon qui a pris ma main, qui a volé. J'exagère, mais j'entends ça si souvent que c'est la faute du démon. Donc, par conséquent, il faut trouver les spécialistes, donc les pasteurs, qui délivrent du démon. Et s'ils n'arrivent pas, ah ben c'est pas mon problème, c'est son problème. Il n'a pas d'autorité. Moi, je l'ai entendu, bien plus qu'une fois. Dieu dit à Caïn, premièrement, « Pourquoi es-tu irrité ?» Il remet Caïn devant sa responsabilité. Dieu nous met devant nos responsabilités. Si tu as un problème avec l'indiscipline, c'est ton problème. Et Dieu te demande de régler ton problème et de ne pas mettre sur le dos des autres ton problème. « Pourquoi es-tu irrité ? Pourquoi es-tu abattu ?» Regardez versets 6 et 7. Certainement, si tu agis bien, tu vas relever ton visage. Et si tu agis mal, le péché se couche à ta porte. et ses désirs se portent vers toi, mais toi, domine sur lui, domine sur lui. Sois discipliné, prends les bonnes décisions. Tu peux, malgré que tu aies envie de tuer ton frère, tu sois rempli de haine, tu peux encore réagir. Dites avec moi ce matin, je peux encore réagir. Je peux réagir, amen. Ne dites pas, je suis une pauvre victime, je ne peux rien faire, je suis lié, c'est des démons. Mais non, il faut arrêter, c'est des mensonges tout ça. Ce n'est pas l'évangile. C'est un faux message qui est propagé, qui est véhiculé sur des réseaux, etc. Mais c'est tellement faux. Nous sommes responsables. Même l'homme de Gadara qui était habité par des milliers de démons, c'était une légion de démons en lui, il pouvait encore venir lui-même devant Jésus. Il pouvait encore faire quelque chose. Donc nous pouvons réagir. Caïn, Seigneur lui dit, pourquoi es-tu fâché à ce point-là? Réfléchis sur ta vie. Calme-toi et réfléchis. Mets le doigt là où il faut mettre le doigt. Sois honnête avec toi-même. Reconnais ton besoin. Arrête d'être orgueilleux, fermé et têtu. Ouvre-toi et reconnais ta faute. Je suis là pour te pardonner, pour te relever. Mais attention, le péché est tout près à ta porte. Si tu ne réagis pas maintenant, le péché, le texte dit en fait, le péché est comme un animal sauvage qui va sauter sur toi et te dévorer. Donc nous pouvons réagir, mais il y a aussi un temps où nous sommes vraiment piégés si nous ne réagissons pas. Le manque de discipline, frères et sœurs, je suis en train donc de parler des conséquences de nos manques de discipline. Ça doit résonner en nous. Quand vous êtes tenté de faire quelque chose qui n'est, vous sentez que ce n'est pas bien, mais vous continuez quand même, pensez aux conséquences. Alors, certaines conséquences peuvent être mineures, mais d'autres peuvent être franchement très fortes et nous péjorer le reste de notre témoignage. Il est dit dans Genèse 49, dans le témoignage de Ruben, le fils aîné de Jacob. Ruben, le fils, en tant que fils aîné, il avait droit à quoi ? Au droit d'aînesse. C'était une double bénédiction, mais il n'a pas reçu. Il a perdu la bénédiction. Et la Bible dit dans la prophétie de Jacob, dans Genèse, que il est dit Ruben supérieur en dignité, mais impétueux comme les eaux. Tu as tout perdu et ton privilège de premier-né va passer à d'autres. Pas à toi. Toi, tu as perdu ta bénédiction. Il était impétueux comme les eaux. Vous savez, quand il y a une inondation, vous ne pouvez pas l'arrêter, quoi. Quand il y a un orage, c'est juste une explosion, un déluge. C'est impossible à canaliser. Un homme indiscipliné, une personne indisciplinée, c'est impossible à canaliser. Vous êtes indomptable. Mais Dieu nous dit ce matin, ne perds pas le contrôle sur toi-même. Reste dans la discipline. Apprends à la discipliner, car c'est une protection pour toi-même. C'est une protection pour toi-même. Regardez avec moi, Proverbe 25, 28. Comme une ville forcée et sans muraille, ainsi est un homme qui n'est pas maître de lui-même. Ça veut dire qu'un homme qui n'est pas maître de lui-même, il tombe sous la première attaque. Il est piégé, il n'a pas d'autorité pour résister. L'indiscipline, c'est comme un ennemi qui rentre dans une ville où il n'y a plus de murailles, plus de portes, plus rien. Ça rentre dedans tout de suite et on est vaincu. Proverbe encore, les proverbes parlent beaucoup de cela. Proverbe 16, 32. Celui qui est lent à la colère vaut mieux qu'un héros. Et celui qui est maître de soi-même vaut mieux que celui qui prend des villes. Ça veut dire que si vous êtes indiscipliné, vous pouvez avoir des victoires au dehors. Mais à l'intérieur, vous êtes dans la défaite. Il y a des gens qui ont du succès au dehors, mais à l'intérieur, chez eux, ils n'ont aucune autorité, ils ne font rien de bon à cause de leur manque de discipline. Celui qui est maître de lui-même est mieux que celui qui prend des villes. Donc c'est une protection pour ma vie. La discipline est une protection pour ma vie. Elle exige de la volonté. Tout m'est permis, tout n'est pas utile, je ne me laisserai pas asservir par quoi que ce soit. 2 Timothée 2, 22, fuis les passions de la jeunesse. Parfois la fuite, ce n'est pas de la lâcheté, mais c'est une nécessité. Savoir dire non. Et ces choses, j'arrive à ma conclusion, et ces choses doivent être apprises, chers parents, dès l'enfance. Dès l'enfance. Apprenez à vos enfants les limites. Aimez vos enfants tout ce que vous pouvez, mais mettez-leur des limites, s'il vous plaît. Mettez-leur des limites. Ne les laissez pas tout faire, c'est la catastrophe après. Ne leur laissez pas tout faire. Toute la parole de Dieu est pleine de ces conseils de sagesse dont je ne vous parle que très peu ce matin. Ils doivent être apprises dès la jeunesse. Quand on voit Élie, E-L-I, ce n'était pas le prophète, mais le sacrificateur, Dieu va lui dire une chose, il ne lui dit pas que son ministère était mauvais. Quand on le lit, ce n'était pas un homme en super forme, c'est vrai, mais Dieu va lui reprocher une chose, c'est qu'il a laissé faire ses fils. Il leur a laissé faire sans les reprendre vraiment. Il leur a dit, ce que vous faites là n'est pas bien, mais il s'en est tenu à ça. Ce qu'il faisait, ses fils, c'était extrêmement grave et il n'est pas intervenu. Cette discipline ne fonctionnait plus dans sa maison. Alors ne changez pas du tout, ne soyez pas que disciplinés avec vos enfants. Faites un bon mélange entre l'amour, mais aussi mettez les limites quand il faut les mettre. Personnellement, je suis reconnaissant pour les limites que j'ai eues. Parce que ce qu'on vous a enseigné en tant qu'enfant, le sens du devoir, les sens des responsabilités, des choses comme ça, le sens de la discipline, eh bien, cela vous sert toute votre vie. Alléluia. Toute votre vie. Toute votre vie. Ne dites pas, mes parents ont été trop durs, etc. Peut-être. Mais en réalité, si vous êtes guéri de peut-être des petites injustices qui ont été le cas de beaucoup de chez moi aussi. Mais si on est libre de ça, les valeurs de la discipline sont des valeurs que vous portez toute votre vie. Amen.